Chapitre 8. Buddy Lee se gara sur le parking de Randolph Paysage. Il sortit, hésita à verrouiller les portières, mais songea qu'il fallait être sacrément désespéré pour voler un tas de rouille pareil, et il prit place sur le siège passager du pick-up d'Ike, stationné juste à côté. Ike démarra et rejoignit la route principale.
« Ma bagnole risque pas de gêner ?»
demanda Buddy Lee.
« Non, pas de souci. J'ai prévenu Jazzy. »«
On va où ?»«
Au boulot d'Isaiah. Les flics m'ont dit qu'il avait reçu une menace de mort l'année dernière. J'ai appelé ma femme pour qu'elle me donne l'adresse. Il faut bien commencer quelque part, hein ?»
Buddy Lee sentit au plus profond de ses tripes un petit élancement qu'il connaissait bien, mais qu'il se força à ignorer. Il avait soif. Pire, il avait besoin de boire. Les deux hommes gardèrent le silence pendant plusieurs kilomètres, jusqu'à ce que Buddy Lee n'y tienne plus.
« Hé, ça te dirait de mettre un peu de musique ?»
Du pouce, Ike actionna un bouton sur le volant. Aussitôt, la voix suave du légendaire Al Green emplit l'habitacle. Buddy Lee se mit à se tapoter la cuisse avec ses doigts osseux.
« J'imagine que t'es pas un grand fan de country, je me trompe ?»
demanda-t-il.
« Pourquoi ? Parce que je suis noir ?»«
Ouais ?»
répondit Buddy Lee en passant la main dans sa tignasse grise.
« C'est pas une insulte, hein ? C'est juste que tes congénères d'habitude, ils aiment pas trop la country. »«
La prochaine fois que tu dis tes congénères, je te jette sur la bande d'arrêt d'urgence. »
prévint Ike d'une voix détachée sans quitter la route des yeux. Dans un premier temps, Buddy Lee crut qu'il avait mal entendu. Mais lorsqu'il vit l'air sévère d'Ike dans le rétroviseur central, il comprit que si.
Désolé, je voulais pas te vexer, j'ai tendance à parler sans réfléchir.
Chaque fois qu'un blanc prononce l'expression tes congénères, j'ai l'impression d'être un animal que vous essayez de foutre en cage. J'aime pas ça. Alors pour toi, ça fait un.
Un quoi ?
Un avertissement, et il y en aura pas d'autre. Là, je passe l'éponge parce que, comme tu l'as souligné, c'est une période compliquée. Mais la prochaine fois, tu prends un coup de coude dans la mâchoire.
Ça va, je t'ai dit que j'étais désolé. Je vais pas non plus te raconter que j'ai plein d'amis noirs parce que c'est pas vrai. J'en connais quelques-uns avec qui je m'entends bien, mais c'est pas eux que j'appellerais si j'avais un cadavre à enterrer.
Ike lui jeta un rapide coup d'œil avant de reporter son attention sur la route.
Et je suis pas raciste, bredouilla Buddy Lee. Je connais pas beaucoup de noirs, c'est tout.
J'ai jamais affirmé que t'étais raciste. T'es juste un pecno qui a jamais eu à se soucier de ce que traversaient ceux qui ont pas la même couleur de peau que toi.
La seule couleur qui compte, c'est celle de l'argent. Regarde-toi, par exemple. T'as ta propre boîte. Tu t'es pas fait virer par ton patron parce que t'as eu le culot de demander des jours de congé pour enterrer ton gosse. T'as une belle maison. Moi, j'habite dans un mobilhome pourri entouré de mobilhomes encore plus pourris. Tu t'en sors pas mal. Beaucoup mieux que moi, en tout cas. Et pourtant, t'es noir.
Ike serrait le volant si fort que ses phalanges avaient viré au blanc.
Tu réalises pas à quel point j'ai dû trimer pour m'en sortir pas mal, comme tu dis. Si le vert des dollars est vraiment la seule couleur qui compte à tes yeux, est-ce que tu serais prêt à changer de place avec moi?
Est-ce que je récupère ton pick-up? Parce que dans ce cas-là, avec plaisir!
S'exclama Buddy Lee avec un petit ricanement.
« Oui, oui, tu récupères le pick-up. Par contre, tu te fais aussi contrôler 4 ou 5 fois par mois parce qu'il n'y a pas moyen qu'un négro comme toi puisse se payer une bagnole pareille, pas vrai? Tu récupères le pick-up, mais dès que tu fous les pieds dans une bijouterie, il y a le vigile qui te lâche pas d'une semelle parce qu'il pense que t'es juste là pour préparer un casse. Tu récupères le pick-up, mais toutes les petites vieilles que tu croises s'agrippent à leur sac à main parce qu'elles ont vu sur Fox News que ton seul objectif dans la vie était de les détrousser, voire de les violer. » Tu récupères le pick-up, mais tu dois expliquer au cow-boy qui t'arrête que « Non, non, monsieur l'inspecteur, je vous jure que je refuse pas de coopérer. » Tu récupères le pick-up, mais tu prends 2 balles dans le dos parce que t'as fait la connerie de vouloir sortir ton portable de ta poche.
Ike jeta un coup d'œil à Buddy Lee et ajouta
« Alors, tu veux toujours qu'on échange nos places ?»
Buddy Lee déglutit bruyamment et se tourna vers sa vitre sans prononcer le moindre mot.
C'est bien ce que je me disais, conclut Ike. Le verre compte pour rien s'il se trouve dans une main noire.
Entre-temps, la voix aiguë de D'Angelo avait remplacé celle d'Al Green dans l'habitacle. Ike s'engagea sur la voie rapide en direction de Richmond. 50 minutes plus tard, il prenait la sortie centre-ville, et après un virage serré comme la corde autour du cou d'un pendu, il se retrouva sur Blue Spring Drive. Il y avait beaucoup de circulation, mais le pick-up réussit à se frayer un chemin entre les voitures. Ike détestait conduire en ville. Toutes ces rues étroites. Il avait l'impression d'être un rat coincé dans un labyrinthe. Le GPS leur indiqua qu'ils se trouvaient à 60 mètres de leur destination. Ike leva les yeux. Devant lui se dressait le R.C. Johnson Building, une bâtisse brune de 4 étages plantée au milieu d'un bosquet de chênes. Il se fit la réflexion que les gens qui s'occupaient de l'aménagement urbain à Richmond devaient être des schizophrènes tiraillés entre leur attrait pour les beaux paysages de Virginie et leur amour du béton. Ike se gara sur le parking et coupa le contact. Le ventilateur continua à ronfler sous le capot quelques instants avant de se taire. Ike descendit, aussitôt imité par Buddy Lee, et tous deux se dirigèrent vers les lourdes portes en verre qui s'ouvrirent en grinçant. Entre les portraits de mannequins à la peau blanche et aux lèvres fluo qui semblaient les observer sur les murs, les chaises au design géométrique étrange éparpillées un peu partout, et le tableau noir aux lettres blanches qui listait les différentes entreprises qu'hébergeait le bâtiment, l'accueil ressemblait à une capsule temporelle des années 1980. « La Gazette arc-en-ciel est au 2e étage », indiqua Ike. « Ils auraient difficilement pu trouver plus gai », commenta Buddy Lee. Ike lui jeta un regard de travers. « Qu'est-ce que j'ai dit encore ?» s'offusqua Buddy Lee, et Ike secoua la tête avant de se diriger vers l'ascenseur. Le siège de la Gazette arc-en-ciel consistait en 6 bureaux entassés dans un open space conçu pour en accueillir 4. En tout, une douzaine de jeunes hommes et jeunes femmes pianotaient sur des claviers d'ordinateur, scrutaient leur téléphone portable ou faisaient les deux en même temps. Buddy Lee et Ike s'approchèrent du bureau le plus près de l'entrée, derrière lequel une femme noire avec des dreadlocks et un rouquin barbu discutaient en examinant une tablette. L'homme leva la tête. « Est-ce qu'il faut encore qu'on déplace nos voitures ?» demanda-t-il. « Hein ?» fit Ike. « C'est vous qui vous chargez de l'entretien du parc, non ?» Ike se rendit compte qu'il portait sa chemise de travail sur laquelle figurait l'inscription « Randolph Paysage ». Il soupira. « Est-ce que ça peut attendre un peu ?» ajouta la femme aux dreadlocks. « On est hyper occupés, là. »« Oh, Barberousse, on n'est pas jardinier et on s'en tape de vos bagnoles !» intervint Buddy Lee, ce qui eut le mérite de retenir l'attention du journaliste, dont le visage s'empourpra en quelques secondes. « Pardon ?»« On n'est pas jardinier, » répéta Ike. « Qu'est-ce que vous voulez, alors ?»« C'est vous le boss, ici ?» demanda Buddy Lee. « Non, » répondit la femme aux dreadlocks. « C'est moi, Amelia Watkins, rédactrice en chef. Que puis-je faire pour vous, messieurs ?» Son regard était rivé sur les deux intrus, mais Buddy Lee remarqua que sa main gauche s'était glissée sous le bureau. « Pas la peine de dégainer votre flingue, on est venu en paix, » dit-il, et Amelia pinça les lèvres. « C'est une période dangereuse pour les journalistes, » se justifia-t-elle, « surtout ceux qui militent pour les droits LGBTQ. » Sa voix, grave et vibrante, rappela à Buddy Lee une chanteuse de blues qu'il avait vue en concert à Austin quelques années plus tôt. « Je suis Ike Randolph, et voici Buddy Lee Jenkins. » Aussitôt, Amelia se leva pour faire le tour de son bureau. Elle était presque aussi grande qu'Ike, mais svelte et musclée. Ses dreadlocks lui tombaient jusqu'en bas du dos. « Vous êtes le père d'Isaiah ?» déduisit-elle. « Oui, et Buddy Lee, celui de Derek. Est-ce qu'on pourrait discuter tranquillement quelque part ?»« Bien sûr. Suivez-moi, il y a une cafétéria au rez-de-chaussée. » En bas, Amelia commanda un café noir qu'elle avala presque d'un trait. Buddy Lee regretta de ne pas avoir de whisky à verser dans le sien. Ike ne prit rien. Sa boisson terminée, Amelia froissa le gobelet en carton et le jeta en direction de la poubelle située 2 mètres plus loin, où il atterrit sans toucher le rebord. Panier. « Vous jouez au basket ?» s'enquit Ike. « je sais, la lesbienne basketteuse, gros cliché. » Mais oui, c'est même ça qui m'a permis d'obtenir une bourse universitaire.
Isaiah aussi se débrouillait bien au basket.
Son tir à trois points, c'était quelque chose, confirma-t-elle.
Je me suis toujours demandé comment il pouvait avoir autant de prédispositions pour le sport en étant comme il était.
Amelia eut un petit ricanement consterné. Vous pensez que sous prétexte qu'il était gay, il aurait dû faire de la broderie ?
Je sais pas, bredouilla Ike en tapotant la table des doigts. J'ai jamais compris pourquoi il était comme ça. Ça a causé pas mal de problèmes entre nous.
Oui, il m'a raconté.
Ah bon ?
Quand il est arrivé au journal, on a partagé nos histoires de coming out. Une chose est sûre, vous vous seriez très bien entendu avec mon père. Vous croyez tous les deux qu'il doit y avoir une explication à notre sexualité. Alors que non, elle fait simplement partie de nous. Et c'est pas le fait qu'Isaiah soit gay qui a causé des problèmes entre vous, mais la façon dont vous avez géré cette information.
C'est pas aussi simple.
Si vous le dites, soupira Amelia avec un haussement d'épaule. Au moins vous avez pas coupé les ponts avec Isaiah. Moi, mon père ne m'a plus adressé la parole depuis le lycée.
Et sans vouloir être désagréable, on n'est pas venu pour une thérapie de groupe, mais pour que vous nous parliez de la menace de mort que son fils a reçue l'année dernière,
intervint Buddy Lee. Ike lui jeta un regard assassin que Buddy Lee ignora. Ah oui, les socio-anarchistes, se remémora Amelia.
Les quoi ? Demanda Buddy Lee.
Les socio-anarchistes. Un groupuscule d'extrémistes de gauche qui préfèrent les cocktails Molotov au discours constructif. Si vous voulez mon avis, c'est juste une bande d'abrutis ultra privilégiés. Ils s'imaginent subversifs parce que c'est à la mode. Je parie qu'au lycée, ils étaient tous gothiques.
À vous entendre, vous les prenez pas trop au sérieux, devina Ike. Et Amelia écarta les mains en faisant l'amour.
Ils étaient remontés contre Isaiah à cause d'un de ses articles dans lequel il dénonçait leur rhétorique foireuse et leur reprochait leur transphobie. Au journal, on a tous jugé que c'était des menaces en l'air, mais on a quand même prévenu la police, au cas où.
Donc vous pensez pas que ça puisse être eux, les assassins ?
Demanda Buddy Lee. Très sincèrement, ça m'étonnerait. Après, on ne sait jamais. Les gens sont de plus en plus tarés. On est justement en train d'écrire un papier sur Isaiah et Derek et sur toutes les personnes LGBTQ qui ont été assassinées cette année.
Il y en a tant que ça?
Depuis l'année dernière, les meurtres d'hommes gays et bisexuels sont en hausse de 400%. La haine a le vent en poupe.
Et ces socio-anarchistes, ils ont un local?
Demanda Ike. Amelia fit signe à une jeune serveuse asiatique qui lui apporta aussitôt un second café. Ils tiennent une boutique à Glen Allen qui vend des bangs et divers articles pour fumeurs de cannabis, répondit-elle. Je peux vous donner l'adresse si vous voulez.
Mais pour moi, c'est juste des fils à papa qui savent pas quoi faire de leur temps libre. Cette adresse, comment vous l'avez obtenue ?
Ils l'ont inscrite sur leur lettre de menace. Ils devaient trouver sa classe.
Nous, tout ce qu'on veut, c'est leur poser 2-3 questions, expliqua Buddy Lee. On cherche à comprendre ce qui est arrivé à nos fils. Apparemment, les flics piétinent. Ils nous ont dit que les amis des garçons étaient pas très bavards. Et il n'y a pas de reproche de ma part, hein. Moi non plus, je peux pas blairer la police.
Amelia croisa les bras et Ike put admirer ses biceps et ses épaules musclées. C'est pas qu'on veut pas leur parler, répliqua-t-elle. C'est juste qu'on sait rien. Pour ma part, en tout cas.
Isaiah n'a pas évoqué un article potentiellement dangereux sur lequel il bossait ?
S'enquit Ike. Non. D'une manière générale, on évite d'écrire des trucs qui risqueraient de nous faire tuer. Pour ça, le fait d'être noir et homo suffit largement.
Buddy Lee se mit à observer le plafond. Donc, d'après vous, c'était un crime homophobe gratuit ?
Conclut Ike. Amelia but une gorgée de café et attendit longtemps avant de répondre. Non. Je sais pas pourquoi ils ont été tués, mais je pense pas que c'était un acte gratuit.
Bon, eh bien, je crois qu'il nous reste plus qu'à récupérer cette fameuse adresse.
Vous leur ferez pas de mal à ces gosses, hein ? S'inquiéta Amelia.
Pourquoi vous dites ça?
Vos tatouages.
Je vous assure que vous avez rien à craindre, ma bonne dame, dit Buddy Lee. On est deux petits vieux qui veulent simplement savoir ce qui est arrivé à leur fils. On est aussi inoffensifs que des Doberman aveugles qui font la sieste sur un perron. Amelia éclata de rire. Cette fois, ses yeux s'emplirent de lumière.
Vous êtes vraiment un sacré personnage, vous.
Et encore, ma belle, t'as rien vu?
Fanfaronna Buddy Lee.
Ike secoua la tête.